Ça risque de se couper.
Non, mais la fente, ça va nous aider à profiter des radiateurs un peu. Pas beaucoup. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 9. Je vous rappelle que dans les paroles qui viennent de précéder ce que nous lisons, le Seigneur, donc reprenant Pierre, qui voulait le protéger d'aller à la croix, dit que si quelqu'un veut venir après moi, il doit donc prendre sa croix, se renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Et il avait commencé en ce moment-là, dans son ministère terrestre, à dire et redire et à accentuer constamment sa mort sur la croix qui devait venir. Avant cela, tout était puissance, miracle, ça cadrait bien avec l'image du Messie que les Juifs avaient. Mais maintenant, il introduit cette chose qui les bouleverse, qui les confonde, que ce Messie dont il est prédit dans les prophètes, qu'il allait faire venir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, qu'il allait guérir l'aveugle et le boiteux, que ce Messie doit souffrir beaucoup et mourir à la main des responsables religieux du pays d'Israël eux-mêmes. Chose impensable pour les Juifs de l'époque. Mais en terminant ce discours, Jésus dit au verset 1 du chapitre 9 ceci, et Marc le raconte. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, c'est-à-dire 6 jours après cette dernière phrase, ce discours et surtout cette dernière phrase, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, dit Marc. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Vous pouvez imaginer. Et un des autres évangélistes nous dit que son visage brillait comme le soleil à midi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On va rester ici, sur cette montagne un peu. On va prolonger cette expérience bouleversante et sans pareil. Il ne savait que dire, Pierre. Et heureusement, il ouvre souvent la bouche sans avoir réfléchi. Il ne savait que dire car l'effroi les avait saisis. Et c'est vrai que parfois, quand on a... Et pris de panique, on peut dire des choses complètement irréfléchies. Une nuée vint les envelopper. Donc nous voyons ces trois hommes passent de cette vision du Christ dans sa gloire avec Moïse et Élie, cette lumière à une nuée qui vient les engloutir en quelque sorte et tout obscurcir. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme, soit ressuscité d'entre les morts. Et le voilà encore. Jésus est en train de parler de cette mort qu'il va subir. Il retint cette parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que pour les Juifs, il y avait une résurrection d'entre les morts, mais la seule résurrection d'entre les morts, c'était à la fin du monde. Est-ce qu'il peut y avoir une résurrection du Fils de l'homme? Est-ce que Jésus parle de la fin du monde? Est-ce qu'il va mourir et puis il y aura la fin du monde? J'imagine qu'ainsi, ils se disputaient entre eux. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Parce qu'il ne pouvait y avoir aucune résurrection de la mort, aucune résurrection permanente. Donc il y a des gens qui ressuscitent mais qui meurent encore. Mais aucune résurrection finale où la personne ne peut plus mourir, ça ne peut pas arriver avant la fin du monde pour eux. Donc ils discutaient, ils se demandaient, mais comment est-ce possible? De quoi Jésus parle-t-il? Verset 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Rappelez-vous, Malachie, les dernières paroles de l'Ancien Testament, dernière prophétie, Élie va venir. Et il va rétablir toutes choses. Il va réconcilier le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères avant que le grand jour ne vienne. Rappelez-vous, ça c'est la dernière prophétie. Élie, qui est déjà mort depuis des siècles, va revenir. Il leur répondit, Élie vient d'abord, avant que le royaume ne vienne en puissance, hein, et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et en être méprisé? Vous voyez que les disciples ont cette vue que Élie, homme de grands miracles, va revenir sans doute pour faire de grands miracles, quelque chose à faire avec le Messie avant que le royaume ne vienne en puissance. Et ils voyaient tout en termes de miracles, de victoires, de triomphes. Et Jésus dit, oui, c'est vrai. Élie vient d'abord. Mais je vous pose la question, si vous voulez parler de prophétie, moi je vous en pose une. Comment est-ce qu'il est écrit alors, si vous voulez penser en termes de triomphe uniquement, comment est-il écrit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup? C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais je vous dis qu'Élie est venu. La prophétie de Malachie, ça s'est déjà réalisé. Il est revenu. Et pas là tout à l'heure, sur la montagne avec Moïse. Parce que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Et si nous regardons dans d'autres évangiles, et notamment dans l'évangile de. Ah, je ne l'ai pas noté. Mais vous vous rappelez, à un autre moment, Jésus explique que Élie, le Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. D'accord? Il est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc, je fais une parenthèse. Nous ne pouvons pas interpréter la Bible toujours de manière littérale, parce que Jésus ne l'interprète pas ainsi. Quand Malachie dit que Élie va venir, il veut dire quelqu'un qui est complètement comme Élie. Jean-Baptiste, dans sa manière de s'habiller, d'agir, etc., il est complètement dans l'esprit d'Élie. C'est comme si Élie est revenu. Et donc, la Bible doit parler de choses futures en utilisant des choses qu'on connaît déjà. Parce qu'il est impossible de décrire quelque chose d'inouï, sauf en prenant quelque chose qu'on connaît. D'accord? Et donc, la discussion se termine ainsi. Sur Élie, avec Jésus mettant de l'accent sur les souffrances de lui-même, le Fils de l'homme, et les souffrances d'Élie. Et ce n'est pas que le triomphe lorsque le royaume vient. D'accord. Autant pour la lecture et quelques mises au point par rapport à cette journée, ces événements, cette discussion. Je voudrais faire quand même une petite introduction au début et ensuite nous aurons que deux points. Qu'est-ce qui arrive à Jésus ce jour-là et comment est-ce que Pierre répond à cet événement? Et que devons-nous apprendre, nous? Parce que dans cet événement, dans la réponse de Pierre, nous allons voir quelque chose que Dieu voulait garder pour nous dans l'Écriture vis-à-vis de comment entrer dans le royaume de Dieu et comment vivre dans le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Bien, introduction. Le verset 1 est tellement énigmatique que Pascal m'a posé la question déjà à sa lecture il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que donc quelques-uns des disciples de Jésus ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Parce que les chrétiens évangéliques ont l'habitude de penser que des phrases comme ça signifient le retour glorieux de Jésus à la fin du monde. Mais nous devons tenter de comprendre mieux la manière dont Jésus parle et pense. Et lorsque le royaume de Dieu vient en puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 1 et verset 4, nous trouvons cette phrase un peu similaire. Paul dit ceci, il dit au verset 3, il, c'est-à-dire l'évangile, concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance. Ça, c'est la bonne traduction. Déclaré, et moi je mettrai tiret, fils tiret, de tiret, Dieu tiret, avec tiret, puissance. C'est un terme. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Ce n'est pas la manière dont il est déclaré qui est avec puissance, déclare avec puissance fils de Dieu. Non, c'est déclaré d'être fils de Dieu avec puissance. Pas fils de Dieu faible, comme avant sa mort, mais maintenant fils de Dieu glorifié, ressuscité, fils de Dieu avec puissance. C'est ça le sens de cette phrase en grec. Mais regardez, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection. Maintenant, quand est-ce que le royaume de Dieu vient avec puissance? Le royaume de Dieu vient avec puissance à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais avant ça, Jésus utilise beaucoup de puissance, il guérit des malades, il chasse des démons. Mais pour le Seigneur, ça c'est le droit de Dieu. Si par le droit de Dieu je chasse des démons, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume s'est approché dans les miracles de Jésus, mais seulement avec une puissance de droit. Quand vous voulez faire quelque chose avec puissance, est-ce que c'est avec le droit que vous agissez? Non, c'est avec le bras. Donc, tout ce que nous avons vu dans le ministère de Jésus jusqu'ici, c'est rien par rapport à ce qui va se passer à la croix, parce que là, je vous assure que les puissances, toutes les puissances du royaume des ténèbres ont été complètement dévastées et dépouillées avec une puissance incomparable, qu'on ne peut pas répéter. Et la fin du monde est venue au calvaire. Et le retour, enfin, le royaume de Dieu est venu dans sa finalité. La fin du monde est venue et le royaume de Dieu dans sa finalité sont venus pour une personne. Jésus expérimente le jugement final à la croix, et puis la résurrection, la glorification, et tout ce que nous expérimenterions à la fin du monde si nous sommes croyants. Jésus a vécu déjà cette fin du monde comme le premier homme à y passer. Donc le royaume de Dieu est venu avec puissance dans l'expérience d'un homme déjà au calvaire. Et à partir de ce moment, ce royaume avec puissance s'établit dans l'histoire et commence à œuvrer à travers Jésus en nous. Quand il va revenir, vous verrez. Vous verrez. Mais ça a déjà commencé à sa mort et à sa résurrection. Est-ce que ça va? Jésus parle de sa mort et de sa résurrection en disant que le royaume de Dieu, et vous verrez avant de mourir, viendra avec puissance. Et certainement, le jour de la Pentecôte, les disciples voient que Christ est exalté et qu'il y a une nouvelle puissance qui est entrée dans ce monde, n'est-ce pas? Et Pierre dit dans son sermon que c'est parce que Jésus a été fait Christ et Seigneur, et c'est lui qui a déversé tout cela sur nous. Sachez-le, Israël, que Dieu a fait de lui Seigneur et Maître. Bien, maintenant nous posons notre première question. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus ce jour-là? Et nous lisons dans le verset 2 ceci. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Le mot c'est métamorphosé. Complètement transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Et cette fois, ce n'est pas comme Moïse lorsque lui, son visage rayonnait, parce que c'était le reflet de la gloire de Dieu qui rebondissait de son visage. Mais là, cette gloire vient de l'intérieur de Jésus, pas de l'extérieur. Et pour un moment dans l'histoire, Dieu permet à Pierre, Jacques et Jean de voir l'identité de Jésus de Nazareth visiblement. Il devient brillant comme le soleil. Un homme. Et pourtant, on peut à peine le regarder. Transfiguré. Nous avons là un avant-goût de ce qui va se passer dans quelques mois lorsqu'il sera ressuscité et glorifié. Bien, ça c'est la transfiguration. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Dieu permet à sa vraie identité de se transparaître pour un moment. Et c'est pour ça que Pierre, quand il va raconter ça dans sa deuxième épître, sa manière de le dire. Donc, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre de cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, nous avons entendu cette voix venant du ciel. Et il parle de tout cet événement avec tellement d'émerveillement. Et c'est extrêmement important que sur terre, avant sa mort, avant sa résurrection, Dieu donne à trois, et seulement trois, qui seront des témoins fidèles. Et leurs paroles prophétiques, on peut y prêter confiance. C'est que ce fils de Dieu, cet homme était le fils de Dieu. Ok, la transfiguration elle-même. Mais nous devons bien comprendre que Dieu n'a pas fait voir à Pierre, Jacques et Jean seulement Jésus transfiguré ce jour-là. Il aurait pu. Il les a fait voir plutôt Jésus transfiguré avec Moïse et Élie. Et pour comprendre le sens que les disciples devaient comprendre, il faut que Élie et Moïse soient là. Et c'est ce que nous devons comprendre. D'abord, nous devons nous demander pourquoi, qui est venu parler avec Jésus, pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre. Et la réponse est très simple. Les Juifs avaient l'habitude de résumer toutes leurs écritures en parlant de la loi et des prophètes. La loi et les prophètes. Qui a écrit la loi? Les cinq, souvent, ça parle des cinq premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Qui est la figure dominante des prophètes? C'est Élie. Il était au début de l'école des prophètes. Il est celui qui fait le plus de miracles de tous les prophètes de l'Ancien Testament, lui et Moïse. Et les deux symbolisent sans doute tout l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a fait avant que Jésus ne vienne pour préparer que le royaume vienne, pour nous montrer, pour nous expliquer qu'est-ce que Dieu va faire dans l'histoire. Le plan de Dieu, c'est quoi? De quoi avons-nous besoin? Moïse et Élie rassemblent un peu, ils accrochent sur leur ceinture tous les prophètes de l'Ancien Testament et ils en sont les représentatifs. D'accord? Maintenant, nous devons comprendre non seulement qui est là, mais de quoi il parle. Et on va demander l'aide de Luc. Parce que Luc nous raconte un autre détail, c'est que Élie et Moïse discutaient avec Jésus son exode à Jérusalem. Ça, c'est le mot qui est utilisé, son exode, en parlant de sa croix, de sa mort sur la croix à Jérusalem, qui va, lui, accomplir en réalité ce que l'exode était en symbole. Où Moïse, passant devant le peuple, franchit cette horrible rivière qui représente sans doute la mort toujours et le jugement dans l'Écriture. Et puisqu'il passe, le peuple passe après lui. Et Jésus aura le vrai exode dans quelques jours. Et Moïse et Élie viennent du ciel. Imaginez, imaginez cela. Que Pierre et Jacques et Jean ont le privilège de regarder des hommes venus de l'autre monde. Des hommes déjà morts de ce monde, déjà ayant vécu des siècles au ciel, et reviennent juste pour un moment. Et discutent dans l'ouïe, dans l'entendement de Pierre, Jacques et Jean. Et ils savent de quoi ils discutent. C'est hallucinant. Et Dieu a fait cela parce que le but de tout cela est tellement grand qu'il viole sa propre règle, que la mort sépare pour toujours le monde à venir et ce monde. Une fois qu'on meurt et qu'on va là-bas, on ne retourne pas, sauf ici pour avoir une discussion, une courte discussion au sujet d'un seul sujet. Qu'est-ce qu'ils discutent? Les trois ne discutent pas. Qu'est-ce que vous auriez pensé, c'est Élie et Moïse. On va discuter tous nos miracles que nous avons faits tous les trois. Moi, j'ai fendu la mer Rouge. Ah oui, moi, j'ai ressuscité le fils de cette dame, etc. Non, 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 ils n'ont pas discuté leurs miracles. Ils n'ont pas discuté, Moïse et Élie, leurs expériences passées pendant leur vie sur terre. Ils sont même pas venus discuter avec Jésus leurs expériences auprès de Dieu au ciel. Ils sont venus discuter avec Jésus sa mort sur la croix. Ce qui intéresse au ciel et aux hommes au ciel, c'est une chose, la mort du Fils de Dieu pour nous qui seul peut nous sauver. Parce que, rappelez-vous, les expériences de Moïse, tout ce qu'il a vécu, qui a vécu des choses pareilles que Moïse? Avec Dieu. Il a communié avec Dieu de manière à ce que son visage brille. Il a entendu la voix de Dieu. Il a écrit 5 livres sur ce que Dieu lui a dit. Il a vécu des choses. Mais tout ce qu'il a vécu, à cause de son péché, il n'a même pas pu entrer dans le pays promis de Canaan. Comment est-ce qu'il va pouvoir avoir le ciel? Il va être mis dehors du ciel si Jésus ne meurt pas et ne le rachète pas par sa mort. Moïse et Élie savent que leur continuation au ciel, leur vie éternelle, établie et permanente, dépend d'une seule chose, son exode, sa mort. Tout dépend de là, pour nous et pour tous les autres, et pour moi-même. C'est pour cela qu'ils discutent cela. Et c'est pour cela qu'en descendant, Jésus n'a que ça dans sa tête. Il parle et reparle. Comment est-il écrit que le Fils de l'homme doit souffrir? Il veut essayer de mettre dans les têtes de Pierre et de Jean et de Jacques que tout ce plan, toute cette relation avec Dieu que vous avez, le point focal, c'est moi, c'est ma mort. C'est pas vous. Voilà donc ce qui se passe. Maintenant, nous pourrons aussi dire, je vais juste dire rapidement en passant, que la mort de Jésus et sa résurrection, c'est aussi, même ce que Moïse et Élie ont vécu, c'est ça qui est l'accomplissement. Quand Moïse monte sur la montagne de Sinaï et descend avec les 10 commandements, son visage rayonnant, ce n'est qu'une ombre, un symbole de Jésus qui monte, non pas sur le mont Sinaï, mais au ciel même, pour faire descendre non pas une loi sur une tablette, mais l'Esprit de Dieu qui écrit cette loi dans le cœur des hommes. Il va vraiment auprès de Dieu et ce qu'il obtient pour nous n'est pas simplement des tablettes extérieures, mais la loi de Dieu dans le cœur. Ou bien pensez à Élie et la manière dont il est ravi au ciel sans mourir. Et Élisée le voit, il est pris dans des chars de feu. Il monte et Élie lui dit, si tu me vois monter, tu recevras une portion double de mon esprit. Ah, mais qu'est-ce qui nous obtient? L'Esprit Saint. C'est Jésus, lorsqu'il est ravi au ciel, exalté. Et donc, ils viennent, ils parlent, parce que là, dans ce que Jésus va vivre, c'est le point focal de toute l'œuvre de Dieu pour vous. Ok, excusez-moi, j'aurais probablement pas dû dire cela. Mais on va aller plus loin. Maintenant, on va terminer avec la réponse de Pierre parce que c'est extrêmement intéressant. Et on va se voir, vous allez vous voir en Pierre et vous allez voir ce qui cause des troubles et des problèmes dans votre vie chrétienne ou votre incapacité d'entrer dans le royaume de Dieu, peut-être. Ok, comment est-ce que Pierre répond? D'abord, nous devons dire qu'il répond de manière à obtenir la réprimande la plus sévère de la part de Dieu le Père. Parce que nous lisons au verset 5 ceci. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Il est bon que nous soyons ici. Cette expérience est vraiment une bonne expérience. C'est un temps fort. On vit un temps fort. On aime vivre des temps forts en tant qu'évangélique, n'est-ce pas? Et il dit, dressons 3 tentes. Donc on va rester ici. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient que dire, car les foi les avait saisis. Une nuée, voilà la réponse. Jésus ne lui donne pas une réponse à sa proposition de tente. Parce que le Père lui donne la réponse. Une nuée descend. On entend sans voir une voix qui dit « Celui-ci !» Pierre avait dit 3 tentes. Il avait mis Jésus sur un pied d'égalité avec Moïse et Élie. Et le Père n'est pas content que quelqu'un ose mettre son fils sur un pied d'égalité avec des âmes qui ont besoin du Fils de Dieu pour être sauvées. Et donc la nuée descend, il ne voit rien, la voix dit « Celui-ci !» Oubliez les autres, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le et on voit plus les autres. C'est fini. Est-ce que le message est clair, Pierre? Est-ce que le message est clair pour nous? Est-ce que vous voyez qui est Jésus-Christ? Faisons attention à ce que nous pensons de lui. Donc, Il écope ce reproche de la part du Père pour son bien. Et il y a trois problèmes chez Pierre qui causent cette grande erreur et que nous voulons comprendre dans le texte biblique. D'accord? Parce que nous vivons les mêmes choses exactement. La première chose, c'est que Pierre met son expérience spirituelle personnelle au centre, au lieu de mettre la mort de Jésus-Christ au centre. Ok, ça c'est la première chose. Vous savez qu'il y a deux sortes de piété parmi les chrétiens évangéliques en France. Il y a une piété un peu mystique ou subjective. Et c'est, je dirais que c'est la forme de piété qui est assez dominante chez les évangéliques aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chez pas mal d'évangéliques, on met au centre l'expérience personnelle. On pense que la vie chrétienne, c'est les temps forts, c'est ce que je vis, c'est ce qui se passe en moi, avec moi, au-dedans de moi. Et c'est ça qui me donne du réconfort que Dieu est avec moi parce que j'ai vécu telle expérience. Et les chrétiens, donc, ils cherchent à répéter leurs expériences spirituelles, tout comme Pierre voulait dresser la tente pour que l'expérience perdure. Écoutez bien, dans beaucoup d'assemblées chrétiennes, ce qui est essentiel, c'est que l'expérience personnelle, spirituelle que j'ai eue se répète. On a vécu un culte incroyable il y a un mois, mais il faut qu'on ait la même expérience aujourd'hui, sinon on doute que Dieu est avec nous de la même manière qu'il y a un mois. Donc mon espoir, mon réconfort, ce qui m'assure que Dieu m'aime, Dieu est avec moi, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix, mais c'est ce que je vis. Vous voyez? C'est mon expérience personnelle subjective. Et Pierre, pour Pierre, ce qui vient de se passer, c'est une expérience personnelle, spirituelle, qui doit continuer. Ce n'est pas une leçon au sujet de ce qui va se passer en dehors de lui, ce que Jésus va expérimenter sur la croix, mais c'est ce que moi je vis maintenant avec Jésus. Et donc ça, c'est une sorte de piété qui nous amène à nous tourner en nous-mêmes, à regarder constamment ce qui se passe en nous, d'accord? Et notre regard est fondamentalement introspective. Et cette piété est en train de ravager l'Église évangélique. Mais attention, cette tendance et constamment avec chacun de nous. Même si vous avez vu les problèmes avec une forme extrême de cela et vous avez tourné le dos, c'est dans notre intimité avec le Seigneur, il est tellement facile de faire de mon expérience dans la prière personnelle de tous les jours le point focal. Si j'ai eu un bon culte personnel, c'est bien. Si je n'ai pas eu un bon culte personnel, oh. Et donc, rapidement, c'est mes expériences qui deviennent le facteur déterminant et décisif pour comment je pense que je vais vis-à-vis de Dieu. Maintenant, la deuxième forme de piété est une piété biblique. Cette forme de piété a son côté subjectif et expérimental aussi, expérientiel aussi. On a des expériences. Dieu est avec nous, il nous parle, il nous touche, et ça nous fait du bien, bien sûr. Mais le point focal, ce en quoi le chrétien biblique met son espoir, ce vers lequel il est en train de diriger ses pensées, je pense à cela plutôt. C'est ce que Christ a fait en dehors de moi, en dehors de mon expérience, il y a 2000 ans. C'est là qu'il a réglé mon problème avec Dieu pour toujours. C'est là qu'il m'a obtenu toute la faveur de Dieu pour tous les jours, pour tout le temps. C'est de sa croix, ses souffrances, que découle toute bénédiction que je vais jamais recevoir et l'assurance que j'ai pas besoin de me regarder mon nombril tous les jours pour voir si mon expérience mérite ceci et cela, parce que Christ a mérité à la croix tout ce qu'il me faut pour le temps et pour l'éternité. Donc, je vous assure que cette piété-là, qui est plus une piété où le regard de l'âme, le regard de mes pensées, de mes cœurs, est dirigé vers, pas vers moi, si je suis bien ou cela, pas en tant que chrétien, mes vacillations, mes hauts et mes bas, mais dirigé vers Christ et ce qu'il accomplit pour moi, à ma place. Cette piété-là qui est basée sur ce qui est historique, objectif, en dehors de moi, christocentrique, ça produit une piété différente, stable, qui a pour centre non pas moi-même et mes expériences, mais Christ. Et en fait, ça produit une vraie expérience chrétienne. Parce que la personne qui regarde Christ et ce qu'il a fait, et qui fait de cela sa préoccupation, oui, ça crée une expérience constante dans la vie chrétienne. Ça m'humilie, ça me sort de moi-même, ça me tourne vers lui, ça m'émerveille. Il y a plein d'expériences qui découlent du fait que je regarde non pas à moi-même et ma subjectivité, mais à la croix. Ok, je peine pour essayer d'expliquer cela, mais je crois que vous avez vu. Si je peux vous donner deux illustrations. Un chrétien qui a vécu le réveil du pays de Galles, le pays de Galles a eu deux grands réveils dans le 19e et 20e siècle. Le premier était en 1859 et le deuxième en 1904. Deux réveils qui ont converti des dizaines de milliers de personnes en peu de temps et ont bouleversé le pays. Et un vieux chrétien qui avait vécu les deux réveils, hein, il a dit ceci. En 1859, donc le premier réveil, c'était ce pour lequel on rendait grâce à Dieu, c'était l'expiation de Christ à la croix. Mais aujourd'hui, donc au moment du deuxième réveil, ce pourquoi on rend grâce, c'est pour nos propres sentiments agréables. Voilà. Il disait que dans ce deuxième réveil, il y avait un point focal qui était différent. On louait Dieu parce que il nous touchait. N'est-ce pas? Ou bien, regardez ceci. Une phrase, une affirmation dans un livre que j'ai lu il y a quelque temps, cette phrase était dite par quelqu'un à une conférence récente où les gens prétendent qu'il y a un renouveau moderne du don de la prophétie. Et voilà ce que cette personne dit. La voix prophétique collective que Dieu est en train de susciter est la plus grande chose que Dieu a jamais fait. La plus grande chose que Dieu a jamais fait, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre nous en ce moment. Oh, jamais. Regardez à la croix. La plus grande chose que Dieu a jamais fait, cher ami, c'était de mourir à la place des pécheurs et de prendre tout le poids de nos péchés sur nous. Le chrétien biblique, comme Paul dit, la vie que je vis dans la chair, maintenant je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La croix est le point focal. Le chrétien mystique dit, la vie que je vis dans la chair maintenant, je la vis dans une série d'expériences et de sentiments dans lesquels je mets ma joie et ma gloire. À nous de choisir entre les deux voies et les deux piétés. Pierre pensait à ce qu'il venait de vivre Moïse et Élie pensaient à ce que Jésus allait subir. Où est votre tête? Où sont vos pensées habituellement en tant que chrétien? Ok. Donc, nous avons parlé de la première erreur de Pierre. C'était quoi? C'est qu'il a mis son expérience spirituelle personnelle au centre au lieu de mettre la croix de Christ au centre comme Moïse et Élie. Deuxième point. Pierre a manqué de voir la prééminence unique de la personne de Jésus-Christ. La croix et maintenant la personne. Nous voyons qu'il voulait dresser trois tentes. Et oui, quand on voit Jésus en termes de miracles, Moïse a aussi fait des miracles. Élie aussi. Et on est obligé de ranger Jésus avec eux et dire, bon, voilà trois grands faiseurs de miracles. N'est-ce pas? Mais Dieu le corrige avec ce jugement, cette nuage, cette voix qui parle. Et donc, il dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils éternel, en qui j'ai toute ma faveur. Je n'ai pas ma faveur en Moïse. Je l'ai jugé. Il est mort dans l'échec, dans un sens. Il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Élie est mort dans l'échec. Après sa victoire avec les prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'est passé à Élie? Comment est-ce qu'il termine son ministère? Il est déprimé, il est découragé, il va vers le mont Horeb et il dit « C'est moi seul qui étais fidèle et maintenant on cherche à me tuer. » Et il ne croit plus au Seigneur. Et Dieu le reproche. Et il dit « Lève-toi, va rejoindre Élisée, il va prendre ta place. Tu vas être relevé. » Moïse et Élie, des hommes avec des pieds d'argile, comme vous et moi. Comme tous les hommes. Mes chers amis, celui-ci, Jésus-Christ, Dieu dit à son sujet, ça c'est mon Fils en qui j'ai toute mon affection. Si vous êtes en lui, j'aurai toute mon affection en vous, parce que vous êtes en lui. La personne de Jésus-Christ. C'est là que Pierre a fait une erreur, n'est-ce pas? Dressons trois temps. Pas compris que dans cette conversation des trois, tout allait autour de Jésus. Rien n'allait autour de Moïse ou d'Élie, n'est-ce pas? Dieu a fait descendre les deux pour qu'ils expriment combien Jésus et sa croix étaient tout, n'est-ce pas? Et lorsqu'il s'agit de mourir pour les péchés des autres, chers amis, Moïse ne peut rien faire pour vous. Ni Élie, ni qui que ce soit d'autre. Il n'y a que le Fils de Dieu. Donc nous devons comprendre, et vous devez tous comprendre, que à moins de saisir cette place unique de Jésus en tant que Fils de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si vous prenez Jésus comme un homme. Et à moins de saisir sa gloire unique, et sa place unique dans l'affection du Père, vous ne pouvez pas beaucoup grandir comme chrétien. C'est lorsque Christ grandit, il doit croître et je dois diminuer, dit Jean-Baptiste. Et lorsque ça se passe aussi dans notre cœur, on voit de mieux en mieux la place unique de Christ en tant que celui qui seul plaît à Dieu. Ça me montre qui je suis. Ça me montre comment je peux avoir la faveur de Dieu en lui, par lui, parce que je suis à lui. Là, je grandis beaucoup. Est-ce que Christ est en train de prendre de plus en plus de place dans votre pensée, dans votre compréhension de votre relation avec Dieu? Est-ce que la croix est en train de prendre une place de plus en plus grande? C'est ça la manière de la croissance chrétienne. Le troisième La troisième erreur de Pierre, c'est que non seulement a-t-il raté l'importance de la croix et l'importance de la personne de Christ, mais il n'a pas compris le principe fondamental qui guide le croyant, c'est-à-dire les paroles de Christ. C'est pour cela que quand Dieu le Père parle, il ne dit pas simplement « Voici mon Fils en qui j'ai toute mon affection » pour montrer l'importance de la personne de Christ. Il dit aussi « Écoutez-le ». Parce que c'était là aussi un problème de Pierre. Non seulement a-t-il raté la personne de Christ dans sa nature unique, l'importance de sa croix, mais il n'avait pas écouté les paroles de Christ quelques minutes avant, quand il lui expliquait que le centre de tout était sa croix. N'est-ce pas? Avant, enfin quelques heures avant, enfin quelques jours avant, excusez-moi, 6 jours avant, quand il a expliqué que si vous voulez comprendre le centre de tout, c'est ce que je vais souffrir. C'est là que Dieu va te bénir. Et le problème de Pierre et de nous, c'est que lorsque nous n'écoutons pas les paroles de Christ, nous faisons notre propre interprétation des événements dans la vie spirituelle. Alors, Pierre a une expérience sur la montagne, Élie, Moïse, Jésus, et il l'interprète selon Pierre. Vous voyez, ça ne suffit pas d'avoir des expériences spirituelles, il faut aussi les interpréter de la bonne manière. Et Pierre interprète ça comme il entend. Au lieu d'interpréter cette expérience selon les paroles de Christ, s'il avait fait ça, il aurait vu que tout tournait autour de sa croix, de sa mort, qu'il était unique, qu'il était différent, et que tout témoignait de lui. Dans l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, il aurait tout pigé. Il aurait su pourquoi c'était Moïse, pourquoi c'était Élie, pourquoi il parlait de ça, s'il avait écouté Christ et son message de la croix. C'est intéressant que quand ils sont en train de descendre, ils ont toute cette discussion sur Élie. Oui, sur la venue d'Élie, n'est-ce pas? Ils disent, mais pourquoi est-ce que les scribes disent que Élie doit revenir? Vous voyez? Il interprète l'Ancien Testament sans tenir compte des paroles de Christ. Donc il l'interprète comme les scribes, selon les lunettes d'un Messie triomphant, mais pas souffrant. Un Messie sans une croix. Et vous allez faire la même chose. Vous allez comprendre le plan de salut, le message de l'Évangile pour vous. Vous allez tout comprendre à travers, à moins que vous le interprétiez à travers les paroles de Christ, celui-ci est mon fils, écoutez-le et comprenez le reste à travers lui et ce qu'il dit sur ça. Nous ne sommes pas à même de comprendre ni nos expériences spirituelles comme Pierre sur la montagne, ni les passages de la Bible comme celui au sujet d'Élie et son retour, à moins de tout comprendre travers Christ et ce qu'il dit. Les paroles de Christ sont la clé qui nous ouvre le reste. Et c'est là que Pierre avait fait qu'il avait un vrai problème. Christ avait expliqué des choses. Pierre avait entendu, oui, il avait été repris, arrière de moi Satan, mais il ne pesait pas le poids des paroles de Jésus-Christ. Nous aussi. Nous devons faire attention que nous devenions de plus en plus, au fil des années, des hommes et des femmes qui interprètent tout, toute la Bible et toutes nos expériences à travers les paroles du Fils de Dieu. Bien, voilà, nous avons beaucoup appris aujourd'hui sur la forme d'une vie véritablement chrétienne, où la croix de Jésus-Christ est le centre principal. parce que c'est là que j'obtiens tout. Non pas de mes expériences, mais de son expérience. Que le Christ lui-même est primordial, unique, prééminent, suprême, dans une classe tout seul. Il est le Fils de Dieu, il est la voie vers Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est vrai. Et la parole de Christ, écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Si vous l'écoutez, tout le reste, vous comprendriez. Que le Seigneur, donc, nous aide à avoir une vie cruciforme, c'est-à-dire où la croix est au centre, christocentrique, c'est que Christ est au centre. Et je ne sais pas quel mot utiliser pour une vie où la parole est centrale. Mais voilà, c'est vraiment notre besoin. La transfiguration nous atteste de la parole de la majesté d'en haut, que celui-ci est le Fils et que sa mort nous sauve. Nous allons chanter.